Voilà, c'est toujours Radio Note TIP, toujours en direct de la quincaillerie. Autour de la table, on a toujours Karine et Jacques, hein, mais en fait, on va s'adresser à Thomas. Voilà, c'est super bizarre comme ça, mais Thomas nous a fait le plaisir de rester en fait jusqu'à cette heure-ci pour pouvoir parler dans les micros de la radio Note TIP. Et donc, on l'accueille autour de cette table. Alors, bonsoir Thomas.
Salut à tous.
Alors, je te laisse l'honneur de te présenter toi-même.
Voilà. Ce que j'ai compris, c'est que ça paraissait intéressant qu'il y ait un agriculteur qui s'exprime là sur la question. Et donc oui, je suis resté. Ça serait quand même, c'est quand même plus chouette.
C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses en fait depuis hier, hein, puisqu'on était aussi ici hier et qu'on a pu parler de la question des migrants, de la question des chômeurs, de la question de la santé, de la question des citoyens, voilà. Et donc on n'avait pas encore cette question-là, donc c'est bien qu'elle apparaisse en effet.
Ouais. Et donc l'alliance des 19-20 qui se réunissait ici aujourd'hui pour voir un peu quelle convergence de points de vue, de lutte pouvait se mettre en place autour de la question du TTIP a retenu l'attention de mon organisation paysanne.
Qui est ?
Qui est le MAP, le Mouvement d'Action Paysanne de Wallonie. Et puis ça fait quand même 2 ans que chaque fois qu'il y a une manifestation autour de rond-point Schuman, on en est parce qu'apparemment ça déconne complètement à la commission. Là. Ils sont occupés à virer barre à droite toute. Ce qui est pas tellement étonnant quand on voit les dernières évolutions de dernières décennies. Hein. Il semble que les majorités au Parlement, que les majorités au Conseil des ministres qui se dégagent soient de droite. Donc on libéralise, on déréglemente. C'est leur optique. Mais ça a des conséquences absolument désastreuses. Je pense que l'accélération de la disparition des petits agriculteurs n'est qu'un indice de l'impact que les politiques de droite ont sur le monde agricole dans notre pays. J'étudie beaucoup l'agriculture puisque ça fait quand même 25 ans en comptant mes études et mes années de ferme que je planche sur la question de l'agriculture proprement dite et je pense que là la politique agricole commune européenne qui n'avait plus rien de commune d'ailleurs depuis quelques années maintenant a fait la preuve que ce n'est plus une politique du tout, mais une espèce de clientélisme auprès des lobbies. Si on voulait détruire l'agriculture européenne, on n'aurait pas inventé mieux que la politique agricole commune actuelle.
Alors, hors antenne, quand on s'est rencontrés tout à l'heure ici, tu faisais la différence entre agriculteur et paysan. Tu me disais que c'était important de le dire.
Oui, bon, c'est un peu de la sémantique. Il y a des tas d'agriculteurs qui se sentent paysans dans l'âme et je voudrais pas leur retirer ça, mais il se fait que les paysans étaient, ici en Belgique on peut pratiquement en parler au passé, étaient ceux qui étaient chargés de gérer durablement les ressources naturelles en vue de nourrir une population donnée. Et ils ont été remplacés par des agriculteurs qui se sont d'ailleurs fortement industrialisés dans l'après-guerre, histoire de pouvoir fournir un marché, en fait, de commencer à satisfaire l'appétit vorace des marchés. Et ils y ont laissé leur peau, en fait, les agriculteurs. Ils ont été remplacés maintenant par ce qu'on appelle les exploitants, qui sont ceux qui exploitent. Bon, au moins, c'est clair. Au moins c'est dit. Soit ils exploitent une terre, soit ils exploitent un troupeau et ils font pisser du lait à leur vache, mais ça sert de matière première à l'industrie plus que d'aliments. Hein. Il faut pas... D'ailleurs, c'est plus très très bon de boire ce machin-là. Enfin bon, le résultat, c'est que ceux-là, ils sont en train de se faire supplanter maintenant par les nouvelles fermes capitalistes qui, elles, ne visent même plus à satisfaire un marché régional, que ce soit national ou européen, mais l'export. Et essentiellement, l'export, pour autant que ça passe entre les mains des empires agro-industriels, agro-alimentaires, qui sillonnent la planète maintenant sur des grands tankers. Eux, c'est comme ça qu'ils ont trouvé le moyen de faire le plus de sous à l'heure actuelle, puisque toutes les populations sont solvables. Donc ils ont remplacé le charbon, le bois qu'ils transportaient dans leur super paquebot par de la bouffe. Et ils jouent avec. C'est plus rentable apparemment que le secteur automobile ou informatique. C'est comme ça qu'on fait les plus gros profits à l'heure actuelle. C'est faramineux. Donc on achète de la bouffe là où elle est bon marché, auprès de fermes capitalistes qui sont évidemment totalement intégrées avec ces espèces de structures de gestion de flux. Et puis on la revend là où elle est, là où le prix est élevé. C'est-à-dire, par exemple, là où il y a une pénurie, par exemple. Après, il n'y a plus qu'à organiser les pénuries de façon à ce qu'on se retrouve à chaque fois avec des populations solvables, affamées, pour imaginer à quel point la nourriture est devenue un objet de spéculation.
Et du coup, ces populations-là ne peuvent plus non plus produire pour elles-mêmes, finalement, ces denrées-là.
Voilà, mais donc ça, ici, en Belgique, de toute façon, on peut l'observer, cette évolution. On l'a vécue au cours de notre vie, enfin, si on est tout jeune, pas. Mais moi, ça fait 25 ans que j'observe l'augmentation de la prise de marché, on va dire, par les industriels de l'alimentation, les agro-industriels. Et qu'en même temps baisse la souveraineté alimentaire de la population, graduellement. Hein, cette souveraineté alimentaire, c'est la capacité de choisir ce qu'on mange, en connaissance de cause, évidemment. Si tu ne sais pas répondre à où a été produit, comment et par qui ce que tu manges, ta souveraineté alimentaire est nulle. Et donc on s'est bien rendu compte qu'il y avait là une perte de capacité à maîtriser à la fois la qualité, la quantité de ce qu'on ingère, mais aussi tous les circuits de production de cette nourriture. On ne sait plus du tout aujourd'hui dans quelles conditions sociales, environnementales, a été produite la nourriture. On peut quasiment nous faire manger à peu près n'importe quoi.
Je veux dire, ce qui pourrait être pire avec ce traité à venir.
Et bien sûr, c'est tout à fait là qu'on se dirige tout droit, et ça depuis une cinquantaine d'années. Pour moi, il n'y a rien de surprenant à tout d'un coup voir des négociateurs américains invités par cette grosse enflure de Barroso pour venir commencer à négocier des normes. Des modes de vie, en fait. Hein. C'est de ça qu'il s'agit, puisqu'il s'agit de faire rentrer le mode de vie américain sur notre sol, concurrencer directement en éliminant tous les droits de douane. Je précise quand même que jusqu'à maintenant, il y a 12,7%, enfin presque 13% de droits de douane à l'entrée des marchandises américaines sur le sol européen. Et que ça, c'est la première des conditions pour faire un traité de libre-échange, c'est de les supprimer purement et simplement. Donc les agriculteurs européens et américains vont se retrouver à pied d'égalité pour pouvoir jouer cette pseudo-concurrence. C'est magnifique. sauf qu'on va se faire laminer.
C'est ce que j'allais dire. Enfin, vous allez tous mourir, quoi. Après un truc comme ça.
Non, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on,
en tout cas,
juste... faudra qu'on se spécialise dans ce dans quoi on reste bon, que les Américains ne font pas.
C'est ce que j'ai demandé, en fait, comment alors le monde paysan lutte, en fait, contre ça déjà maintenant, et qu'est-ce qui est mis en place
Alors oui, effectivement, les paysans qui ont toujours fait soupirer les stratèges, et qui résistent encore et toujours à des modes de pensée qui sont complètement mortifères. En l'occurrence, je sais pas moi, la Via Campesina, c'est quand même pas une petite organisation puisqu'elle compte 200 millions de membres à l'échelle de la planète. Elle s'est créée en même temps que l'OMC en disant « Mais non, l'agriculture, c'est pas un secteur économique comme un autre, il est vital. Hein. » Pas de pays sans paysans. Hein, c'était un peu l'idée, c'était que finalement, l'OMC risquait de transformer nos biens vitaux en marchandises et qu'un jour, on serait privé de notre liberté politique. Donc, si on veut retrouver sa liberté politique, il faut absolument commencer par recouvrer sa souveraineté alimentaire. C'est vraiment la base de la résistance et de la création d'alternatives. Sans ça, on n'a aucune liberté. Et donc, effectivement, la mobilisation de nos mouvements, enfin des organisations paysannes à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, nous ont toujours poussé à appliquer un mot d'ordre, c'est sortir du marché, sortir l'agriculture des négociations de l'OMC, sortir nos productions du marché. On n'est pas là pour fournir un marché, on est là pour nourrir des gens. Okay ? Ces gens qui prennent conscience que leur alimentation dépend du paysan d'à côté, on sait comment il travaille, on lui fait confiance, on peut discuter avec lui. C'est fondamental ce lien-là, en fait. Il ne s'agit pas de le perdre. Ce n'est pas les traités de libre-échange qui vont nous faire perdre ce lien-là. Par contre, ça va continuer à tirer les prix des aliments vers le bas. D'accord. La qualité aussi vers le bas. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens achètent leur alimentation non pas sur base de la qualité, mais sur base du prix. Et donc, on va se retrouver avec une alimentation à deux vitesses encore plus, quoi. Une alimentation de qualité pour ceux qui peuvent se l'offrir et une alimentation, je dirais, de merde pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et c'est là où ça devient un petit peu dramatique de voir l'évolution des choses, qu'on se fasse prendre des plans d'austérité parce que les banquiers se sont cassés la gueule, qu'il faut rembourser leurs dettes, etc. Que personne ne bronche, c'est déjà assez affligeant, qu'un TTIP passe. Je pense que c'est la Bérésina, quoi. C'est vraiment accepter de marchander, en fait, une baisse de notre qualité de vie et d'accepter de mettre en concurrence nos artisans paysans qui nous font une bouffe de qualité en concurrence directe avec des gros producteurs d'OGM ou qui bourrent leurs vaches d'hormones. C'est pas acceptable.
Justement, donc on disait tout à l'heure aussi, on a Karine et Jacques, hein, autour de la table, et ça peut aussi rebondir comme ça, parce qu'on a ton point de vue, là, comme ça, de personne qui nourrit, en fait, les gens, et les gens qui se nourrissent, en fait. Contre quoi ils se battent, là, contre le TTIP, et qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce qu'est en train de dire Thomas ?
Parce que Thomas disait tout à l'heure, il y a quelque chose, moi, qui me tient fort à cœur, c'est quand il dit perte d'autonomie. Hein, et ça, on n'a plus le contrôle sur son alimentation, sur ce qu'on mange, mais il faut encore qu'on ait à manger. Mais là, comme on est parti, bientôt, on n'aura plus. Hein. On est à 3-4 jours d'autonomie alimentaire dans nos villes, hein, à cause de tout ce système d'échanges mondiaux. Bon, aussi, il y a une crise pétrolière, etc. On a quelques jours d'autonomie alimentaire. Voilà. Je ne sais plus dans quel film, c'est dans un des films de Colin Serrault, je crois, où il y a un paysan de l'Île-de-France qui dit « Nous sommes encore 300 maraîchers, je crois, pour nourrir une population de 10 millions d'habitants. » Donc il dit « Bon, si à un moment... Les afflux de nourriture qui viennent du monde entier par bateau, par avion, par camion, etc., ça s'arrête et ça risque vraiment de s'arrêter parce que le pétrole, etc., on commence à en manquer, enfin, on va en manquer. Et puis toute cette agriculture industrielle dont il parle est bâtie là-dessus. Il dit, on va voir comme des millions de criquets qui vont venir nous bouffer tout ce qu'on est occupé à faire, quoi. Et ça, ce sont des images assez fortes et les gens doivent vraiment se rendre compte de ça. Hein. On est en perte d'autonomie. Enfin, je ne sais pas si je suis clair dans mes explications, mais moi, c'est un truc sur lequel je... Bon, j'ai pas toujours été sensible à ça. Hein. J'ai vu mes parents qui avaient encore un lopin de terre, etc. Qui cultivaient. Et puis nous ici, élevés dans les villes, on a un peu perdu tout ce lien. Et moi, je le retrouve de plus en plus. Je trouve que c'est fondamental.
Yeah. Du coup, la question de l'alimentation. Mais alors, la locale de Boisfort qui se mobilise contre le TTIP, qui va voir sa commune, qui fait en sorte que la commune sorte de, enfin, se déclare commune hors TTIP, etc. Quels sont les moteurs en fait d'un mouvement citoyen comme ça? Est-ce que ça part de l'alimentation ou est-ce que ça va dans tout autre chose?
Moi, je peux parler pour moi.
Karine,
Jacques,
si
tu veux intervenir, tu interviens. Moi, je peux le dire pour moi.
Jacques, et puis
les arguments qu'on entend en faveur du TTIP, disons, ça va créer de l'emploi, ça va relancer la croissance, etc., etc. Mais toute personne intelligente et sensée, je ne veux pas dire des gens qui ont fait des études, etc., toutes les gens qui ont le bon sens, savent très bien que quand il y a une inégalité, le fait qu'on dérégule, ça ne va pas recréer l'égalité, mais ça va augmenter les inégalités. Et ça, c'est quelque chose... Bon, on a fait une interpellation au Conseil communal, la deuxième interpellation qu'on a faite, et on a parlé d'une image. Quand on dérégule, c'est mettre sur la même ligne de départ d'un 100 mètres Usain Bolt et un cul-de-jatte rachitique. On dérégule. Alors, c'est clair qu'on... Voilà. C'est évident. On connaît le résultat de la course.
Karine?
Oui, donc, bah, effectivement, dans le TTIP, il y a l'alimentation. L'alimentation chez nous, ça va être un désastre. On va clairement y perdre, cette mise en concurrence est juste terrible. Il y a l'aspect complètement antidémocratique des négociations. Bruno a expliqué juste tout à l'heure tout ce que comprenait le TTIP. Ce qui est vraiment terrible, en fait, d'un simple point de vue citoyen, c'est de se demander comment ça se fait que nos politiciens laissent faire. Et donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de... On n'a même pas de pouvoir du tout, en fait, sur les décisions qui se prennent en haut lieu. Et donc, le point de vue du citoyen au niveau local, c'est de dire, ben voilà, on va bouger déjà notre niveau local, communal, c'est le premier niveau politique. Si celui-là, on n'arrive pas à le bouger, on est vraiment foutu.
Et donc, il y a plein d'endroits où on n'arrive pas à le bouger.
Je sais, mais c'est pas foutu parce que les interpellations, une fois qu'elle est faite, même si ça capote, on peut en refaire une 3 mois plus tard. En tout cas, mais ça dépend des règlements communaux, etc. Et donc, c'est jamais foutu. Il faut pas arrêter. Et tant pis s'il faut les faire chier, pardon, encore et encore. Mais il faut revenir avec une interpellation, mobiliser plus de citoyens encore. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de communes. Ça a commencé en France, mais il y a énormément de communes en Europe maintenant ou villes. Qui se déclare hors TTIP, si on a de la chance, c'est Tatisa et d'autres. Il y a beaucoup d'outils maintenant qui sont à notre disposition. Déjà, on peut se baser sur les motions qui ont été votées ailleurs. Il y a un site qui a été fait par Acteurs des temps présents, dès 19h20, nos transats avec Bruno, tout autre chose, Sarah Bovenhart. C'est notitip.be. Et là, il y a une carte aussi avec les communes hors TTIP. Il y a une proposition de motion qui est adaptable, hein, c'est juste une proposition. Il y a tout un parcours qu'on peut suivre pour voir comment rendre sa commune hors TTIP, etc. Et donc, on ne peut pas le dire autrement que c'est la mobilisation citoyenne qui va et qui a déjà aidé à changer les choses. On voit la donne qui change au point de vue des votes, hein, simplement. Et donc, voilà, bougeons.
Et alors, une commune qui se déclare hors TTIP? Est-ce que ça... Quelle valeur ça a, finalement?
Tout le monde dit toujours que c'est symbolique et ça m'emmerde un peu. C'est vrai que c'est symbolique. C'est vrai. La commune de Watermael, quand même, s'est engagée à aller jusqu'à la Cour européenne de justice, ce qui n'est pas rien. Maintenant, je ne suis pas certaine de la légalité de la chose. Hein, donc ça, c'est vrai qu'il faudrait qu'on creuse. Est-ce que c'est possible qu'une commune aille jusqu'à la Cour européenne de justice? Je ne sais pas. Normalement, oui, mais je ne sais pas.
De mon côté,
voilà.
J'en sais
mais
rien.
En tout cas, ils sont engagés à ça, ce qui n'est pas rien. Et ce n'est pas la seule commune qui l'a fait. Donc, et ça, c'est vraiment l'avantage des motions, en fait, quand elles sont votées. Et ça ressort comme une motion forte. Et donc, du coup, ça influence d'autres communes et d'autres citoyens qui vont se dire bah, « Tiens, ça, celle-là, elle est bien. On va aller choper celle-là et essayer même de l'améliorer encore. » C'est ce qu'on a fait à Watermael. On a pris la motion la plus forte. On a essayé de l'améliorer au mieux. Là, clairement, on a mis des trucs qu'il n'y avait pas ailleurs. Et puis, pouf, elle a été reprise ailleurs. Et ça, c'est top. Et c'est pour ça qu'avec le panneau à Watermael qu'on a fait avec la Local Tech, tout autre chose, on l'a fait à la fois pour donner un signal à tous les visiteurs de la commune, tous les citoyens de la commune, mais aussi pour essayer d'influencer d'autres communes pour que ça se fasse ailleurs. Parce que, d'accord, c'est symbolique. Mais si symboliquement, toutes les communes de Belgique se mettent hors TTIP et que la Belgique dit oui, même si c'est symbolique, la démocratie en prendra un sérieux coup.
Puis souvent, les acteurs politiques communaux se retrouvent dans d'autres assemblées. Hein, y en a certains, à Boisfort notamment, qui sont députés régionaux. Et donc, voilà, le travail qui se fait à la base, ben, ça remonte. Hein, c'est ce qu'on espère, tout du moins. Voilà. Ouais.
Ah, on n'a pas entendu ce que tu as dit, Thomas, pardon.
Sorry, je t'ai coupé. Mais donc, moi, j'avais juste envie de dire... c'est un message quand même qui est envoyé par le citoyen. Et c'est une des manières de lutter contre la marchandisation du monde, oui, je pense.
Oui, alors si on y mettait... En effet, comme tu dis, Karine, qu'une dimension symbolique, à la limite, on pourrait dire on s'en fout, quoi. Mais ça va au-delà de ça, c'est une vraie mobilisation, c'est une vraie façon de faire entendre sa voix en tant que citoyen, parce que, comme tu le disais, on ne l'a pas ailleurs, et que face à ces gouvernements, à ces dirigeants, à ces multinationales, etc., on a souvent l'impression d'être pas grand-chose du tout, d'être rien. Et donc, si ça ne passe pas au niveau local au départ... Oui, en effet, qu'est-ce qu'on fait ? Et plus qu'encore qu'au niveau communal, il y a même des rues qui se déclarent hors TTIP. Voilà.
Oui, il y a d'ailleurs la possibilité de mettre à la fenêtre de sa maison, ou même ailleurs, des affiches qui se trouvent sur le site de toute autre chose, qui disent appartement hors TTIP, maison hors TTIP, il y a moyen de faire voiture hors TTIP, enfin, c'est Tatisa. Il y a moyen de donner de la visibilité à ça, ça c'est clair. Mais cela dit, c'est vrai qu'au-delà de ça, l'action citoyenne a un vrai sens dans la mesure où elle bouscule l'unité de certains partis politiques. Donc il y a un vrai débat qui se crée au sein des partis qui sont on va pas faire un débat au sein du parti, mais qui sont contre. Et donc les débats qui se font au niveau communal remontent après au niveau régional, et donc on voit que les votes sont différents, que les votes changent. Donc c'est...
Ou sinon, on arrête juste de compter sur eux aussi.
Révolution.
En tout cas, merci à tous les trois. Merci Thomas, merci Karine et merci Jacques.